autour de la question.
Qu'est-ce que c'est?
Pourquoi c'est comme ça?
Comment fait-on?
Qu'est-ce que ça va changer?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Charles Pélabon à la réalisation pour remettre en question un mythe originel et pas n'importe lequel, celui des Indo-Européens. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Qui les a vus passer? Y a-t-il des traces archéologiques de l'existence d'un petit peuple conquérant de toute l'Eurasie depuis les steppes de Russie ou de Turquie ou du Grand Nord, qui sait, jusqu'à l'Inde et l'Iran? À partir de quelle réalité linguistique s'est construit ce mythe Indo-Européen et dans quel but? Pourquoi a-t-il servi tant de sinistres idéologies du colonialisme au nazisme? Et pourquoi le déconstruire et le relativiser aujourd'hui? C'est ce que nous allons chercher avec notre invité, l'archéologue Jean-Paul Demoule, autour de la question « Où sont passés les Indo-Européens ?» Bienvenue. Bonjour Jean-Paul Demoule.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes professeur de proto-histoire européenne à l'université Paris 1 Sorbonne, archéologue et historien iconoclaste. Vous nous aviez déjà alerté ici même, à la lumière des plus récentes découvertes archéologiques, sur certains clichés qui ont la vie dure, comme la sauvagerie des premiers hommes préhistoriques ou nos ancêtres les Gaulois. Cette fois-ci, ce sont nos ancêtres, les Indo-Européens, dont vous avez recherché la trace. Mais où sont passés les Indo-Européens? C'est le titre en forme de point d'interrogation de votre dernier essai qui vient de paraître au Seuil. Vous ne les avez pas trouvés, Jean-Paul Demoule, les Indo-Européens?
Non, et pourtant je les ai vraiment cherchés de bonne foi, puisqu'en tant qu'archéologue, mais m'intéressant beaucoup à la linguistique, à la mythologie aussi, je me suis dit, bon, c'était un des grands problèmes scientifiques des sciences humaines classiques depuis deux siècles, les Indo-Européens, donc je me suis dit qu'en tant qu'archéologue, ben, il fallait essayer de résoudre cette question. Et plus j'ai approfondis et moi je les ai trouvés, donc il y a un problème.
Il y a un problème qu'on va essayer de cerner autour de la question où sont passés les Indo-Européens. Première piste de recherche sonore avec le mix entre mythe et réalité de Charles Pélabon.
Mais qui sont les Indo-Européens?
Une question aussi déterminante pour l'identité des Européens et de leur civilisation.
En tant qu'archéologue, il constate qu'il n'y a pas de traces de culture qu'on pourrait appeler Indo-Européenne.
L'idéologie trifonctionnelle, les trois principales fonctions que remplissent les Indo-Européens. Les prêtres qui enseignent et célèbrent les sacrifices, les guerriers qui protègent le peuple, et enfin ceux qui s'occupent de la production des biens matériels.
Dans l'art, nous n'avons pas d'objet dont nous puissions dire il était Indo-Européen.
On a besoin de s'inventer une généalogie.
C'est ce que j'appelais mythe d'origine des Européens.
Sous le Troisième Reich, un projet secret est mis en place. Le but est de créer une race aryenne supérieure et pure à partir d'enfants blonds aux yeux bleus.
Indo-Européen, demain nous appartient. Indo-Européen, unis face au destin.
T'as vu le blond quand il mange un sandwich? Putain, la mayonnaise, elle sort pas.
Je sais pas si vous avez entendu parler de l'Indo-Européen, mais ça prédate déjà le latin.
Des linguistes qui font des analyses des langues existantes actuelles et puis d'un certain nombre de langues passées voient une certaine unité ancienne dans ces langues. Est-ce que ça ne signifie pas qu'il y aurait quand même un petit socle commun culturel à une certaine époque en Europe et dans une partie de l'Asie?
Alors, où sont-ils passés, ces Indo-Européens?
Où sont-ils passés, Jean-Paul Demoule? Vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre et notamment à une musique qu'on passe heureusement rarement sur RFI européenne du groupe Brutal Combat Nationaliste qui fait assez froid dans le dos?
Oui, dans les différents aspects de la question indo-européenne, il y a effectivement sa récupération, on le sait, par le nazisme, et dans strictement dans la même filiation par les extrêmes droites européennes, anglo-saxonnes aussi d'ailleurs, actuelles, et dans les groupes dits identitaires, effectivement, cette musique dite européenne, qui est, heureusement pour elle, rien d'indo-européen, est assez populaire, mais de manière explicitement violente, brutale, et des sons qui ne sont pas forcément très agréables à l'oreille.
D'où l'intérêt de déconstruire ce mythe, ce qu'on va faire ensemble autour de la question où sont passés les Indo-Européens. Mais avant de le déconstruire, on va peut-être chercher à comprendre quand et comment il s'est construit, en fait, ce mythe. C'est à partir de la Renaissance, dites-vous, Jean-Paul Demoule.
Oui, c'est un double mouvement. les érudits de la Renaissance, à partir du moment où il y a un espace ouvert pour les sciences, puisque avant il y avait une explication, c'était la religion chrétienne, on commence à réfléchir, à redécouvrir l'Antiquité, à redécouvrir le latin et le grec, et un certain nombre d'érudits commencent à être frappés des ressemblances entre un certain nombre de langues. Mais pendant longtemps, comme Dieu avait parlé en hébreu au paradis, c'était l'hébreu la langue mère, et on essayait même de dériver le grec de l'hébreu notamment. Mais donc ces ressemblances font peu à peu système, et puis quand on va découvrir avec les colonisations françaises et anglaises l'Inde, et donc la langue ancienne de l'Inde, le sanskrit, on élargit encore le champ des ressemblances. Et comme en même temps il y a une baisse progressive de crédibilité de l'explication biblique du monde, eh bien s'ouvre au cours du XVIIIe siècle un champ pour ça, mais assez tôt, hein, Leibniz par exemple, dès 1705, parle de ces questions.
Il fallait en fait quoi, refaire un mythe, enfin avant le mythe originel, vous l'avez dit, c'est celui de la Bible, il fallait s'en trouver un autre pour les Européens.
Les Européens chrétiens sont placés dans une situation schizophrénique qui est rare dans l'histoire du monde, parce que tout peuple a son mythe d'origine qui explique comment un dieu l'a créé et comment il a toutes les qualités et bien supérieures à celles de ses voisins. Or le mythe d'origine dans lequel toute l'Europe chrétienne est élevée à partir de la fin de l'Antiquité, c'est effectivement la Bible. Mais d'où vient la Bible ? La Bible vient des Juifs. Et les Juifs, c'est le bouc émissaire normal. Quand il y a un problème, la peste, etc., on va tuer les Juifs, ou on les expulse, on prend leur argent, etc. Donc cette situation est intenable. Elle est souterraine, mais intenable. Et donc on voit au XVIIIe siècle, avec les Lumières, on voit chez un certain nombre d'intellectuels, aussi bien en France qu'en Allemagne notamment, cette espèce d'appétence pour Messie. Après tout, finalement, on leur devait pas grand chose, et si cette Inde qu'on commence à découvrir, qui fascine, qui est lointaine.
Alors pourquoi l'Inde, vous l'avez dit, c'est en lien évidemment avec la langue sanskrite, c'est en lien aussi avec les invasions qui ont lieu en Europe et qui venaient à la fois du Grand Nord, à la fois... c'est en lien aussi avec ces grandes invasions-là qu'on se recrée un mythe originel ?
Non, donc ça va être un peu plus tard, au XIXe siècle, où on va essayer de voir d'où ce peuple, à partir du moment où on fait un peuple originel, d'où il a pu venir. Là, c'est le fait qu'avec le sanskrit, la découverte de l'Inde, on a une espèce de sagesse originelle, de rechange, qui va fasciner les romantiques allemands, des gens comme Herder, etc., et les Français des Lumières. Donc c'est cette idée d'une autre civilisation, d'une civilisation de rechange, comme il y avait eu l'Égypte à un certain moment, donc d'une autre sagesse lointaine.
Et donc ce mythe originel, il va, si j'ose dire, assez bien tomber, parce que il va tomber, vous l'avez dit, donc c'est 18e siècle, c'est aussi au moment des grandes découvertes, c'est aussi au moment où les Européens vont partir, quoi, reconquérir le monde comme ils pensent l'avoir fait au départ.
Oui, parce que à partir du moment où on se dit toutes ces langues se ressemblent, on se dit donc il y avait un peuple originel, comme toutes les langues romanes, espagnoles, italiennes, françaises viennent du latin, et c'est la conséquence de la conquête de toute la moitié sud de l'Europe par les Romains. Et bien là, de même, il y a dû avoir un peuple originel indo-européen, et c'est lui qui va être l'explication. Et le seul modèle qu'on a, c'est effectivement, à la fois, on garde le modèle biblique en tête comme modèle profond, c'est-à-dire la création originelle et la dispersion, et puis ça se recouvre et ça justifie le modèle colonial, puisque l'Europe part à la conquête du monde à ce moment-là, et on dit au fond, consciemment ou inconsciemment suivant les cas, au fond on ne fait que continuer cette grande extension, puisque nous les Européens on est voués à un destin incomparable.
Destin dont vous n'avez pas trouvé la trace. En tant qu'archéologue, vous l'avez cherché.
Oui, j'en suis très malheureux.
Pas de trace d'Indo-Européens. Autour de la question, où sont-ils passés les Indo-Européens ? On continue de déconstruire le mythe avec les Balkans Beatbox sur RFI. Oh,
non, non.
Marianne Chicks, les Balkans Beatbox, qui chantent en bulgare, donc en langue indo-européenne, sur RFI, mais qui revendiquent leurs origines métissées d'Europe orientale et du Proche-Orient. Autour de la question où sont passés les Indo-Européens, avec notre invité, l'archéologue Jean-Paul Demoule, nous cherchons à comprendre pourquoi les Européens ont-ils eu besoin de se construire un mythe originel sur leur sol. Écoutez l'éclairage de l'historien de la période coloniale, Nicolas Bancel, auteur de l'invention de la race.
La première chose qu'on voit dans ce processus, à mon avis, c'est que d'une part, on a besoin de s'inventer une généalogie. On n'en a pas fini avec ça, puisqu'aujourd'hui, les généticiens des populations, qui ne sont pas racistes pour un sou, continuent à essayer de trouver finalement nos origines. C'est le travail des paléontologues également. Donc, on a besoin d'une filiation, on a besoin de connaître notre passé. C'est une démarche assez commune. Par contre, ce qu'on voit dans cette démarche, c'est qu'elle se produit à un moment qui est le 19e siècle, où s'élabore effectivement une théorisation de la hiérarchie raciale et la question de l'origine va croiser en fait cette question généalogique pour produire une théorisation finalement de la supériorité biologique des Européens blancs, enfin de certains Européens blancs, pas tous, pas les Européens du Sud en particulier, et qui viendra conforter en fait l'idée qu'il y a des différences, je dirais, irrépressibles, inextinguibles entre les différents groupes humains, qui expliquent finalement pour le 19e siècle la, entre guillemets, supériorité technique et de civilisation de l'Europe occidentale.
Et qui a laissé des traces et des conséquences jusqu'à aujourd'hui.
Bien sûr, puisque c'est l'une des facettes à la fois de l'idéologie coloniale qui va s'appuyer quand même très explicitement sur le fait que les races supérieures ont un droit de colonisation. Alors certains diront qu'elles ont aussi des devoirs, celles d'amener à la civilisation des peuples perdus dans la nuit. Mais enfin, c'est d'abord le droit des races supérieures à coloniser les races inférieures. Et puis, bien sûr, les conséquences des politiques raciales vont au-delà de la colonisation, puisqu'elles ont eu des conséquences tout à fait effroyables au XXe siècle, comme on le sait.
L'invention de la race aryenne par le nazisme, c'est une des conséquences, le colonialisme aussi, de ce mythe indo-européen, Jean-Paul Demoule.
Oui, parce que ça commence par les ressemblances entre langues et cette idée d'un peuple originel indo-européen. Et puis au cours du 19e siècle, c'est là que se forme l'anthropologie physique, la science des races, entre guillemets, parce que avant, on avait un modèle dit monogénique. La Bible, Adam, tous les hommes descendent du même homme. Et au cours du 19e siècle, c'est là que le racisme apparaît et qu'on va faire des cases avec des races plus favorisées que d'autres. Et quelle surprise, la race dite blanche ou caucasienne est subdivisée, comme le disait Nicolas Bancel, avec la race dite nordique qui est censée être encore plus supérieure. Pour les Allemands, mais les Français évidemment vont dire le contraire, en plaidant pour les petits bruns. tout ça va animer une grande partie du 19e siècle jusqu'à ce que cette science des races se dissolve, parce que plus on prenait de mesures dans des crânes, jusqu'à 5000 par crâne, plus ça s'est dissous, puisqu'effectivement l'espèce humaine est une, donc on peut pas faire de race. Effectivement, on n'est pas pareil suivant les endroits du globe pour des tas de raisons, mais on peut pas faire des races au sens où ça serait des espèces différentes.
L'apogée de cette idéologie raciste, c'est évidemment le nazisme, avec l'invention de la race aryenne qui s'inspirait absolument de ce mythe indo-européen. La croix gammée, c'est même le symbole inversé de la swastika indienne.
Oui, c'est un motif effectivement qui est emprunté à l'Inde. Et le nazisme, c'est un des aboutissements possible. Le pire, c'est pas la cause, c'est pas à l'origine, mais c'est un des aboutissements possibles dans cette politique de justification au moment où les nationalismes s'exacerbent à la fin du 19e siècle. Donc c'est là que le nazisme s'enracine et va aller jusqu'au bout de cette logique en disant s'il y a une race, il y a donc une race supérieure, le peuple originel il vient du Nord, c'est nous. D'ailleurs en allemand, indo-européen se dit indo-germain, indo-german, et on est parti du nord, on a envahi une grande partie de l'Europe et de l'Asie, mais en envahissant, c'est abattardi, et donc maintenant il faut restaurer la pureté de la race. Alors évidemment, ça repose sur rien, et pour que ça prenne, il fallait le désastre économique de l'Allemagne de l'après Première Guerre mondiale.
Alors ça ne repose sur rien au niveau archéologique, il n'y a pas de route de ces Indo-Européens. On reviendra sur la question des langues en deuxième partie, parce qu'il y a une vraie communauté de langues indo-européennes.
Personne ne le conteste.
Voilà, c'est une vérité linguistique et scientifique, mais il n'y a pas de route. En plus, ils viendraient d'où, ces Indo-Européens? C'est vraiment une construction.
Donc, à partir du moment où on a appliqué le modèle, disons, latin pour les langues romanes, donc le peuple originel, d'abord ça a été l'Inde, évidemment, puisque c'était, etc., puis on n'a rien trouvé, donc on a commencé à le rapatrier, et donc on est arrivé dans les steppes du nord de la mer Noire, l'Ukraine actuelle, qui était déjà l'hypothèse de Leibniz, d'ailleurs, au début du XVIIIe siècle.
Pour essayer de trouver l'origine,
oui, pour essayer à chaque fois d'où il venait. Alors, à chaque fois avec des arguments que je vous épargne, par exemple, comme il n'y a pas de mots communs entre les différentes langues pour les arbres, on disait, ah ben c'est un endroit où il n'y a pas d'arbres, etc. Et puis, on est allé vers l'Europe centrale, et puis finalement, l'aboutissement, et ça montre bien la logique d'ensemble du mythe, c'est-à-dire qu'il fallait que cette origine soit européenne. L'aboutissement va être l'Europe du Nord. Mais dans l'état actuel de l'archéologie, il n'y a aucun endroit où on peut suivre comme ça une dispersion d'objets, de pratiques funéraires, de formes de maisons, comme on peut suivre très facilement l'arrivée de l'agriculture en Europe à partir du Proche-Orient, ou comme on peut suivre l'expansion de l'Empire romain ou les grandes migrations du Moyen-Âge. Là, en revanche, pour le problème indo-européen, il n'y a rien qui permet de façon certaine de dire ça.
Donc on a pris le problème à l'envers, en fait. Il faut voir ce qu'on trouve et pas vouloir absolument prouver ce qu'on espère trouver.
Oui, parce que très souvent on est dans le cercle vicieux. Par exemple, le modèle, ça vient des steppes de l'Ukraine, qui est un des plus populaires actuellement chez un certain nombre de linguistes. Ben c'est un cercle vicieux. Si on trouve quelque chose en Ukraine, on dit vous voyez, c'est les Indo-Européens et ça.
On les a trouvés autour de la question où sont passés les Indo-Européens. Ben on continue de les chercher, nous, pour déconstruire ce mythe des origines. On se retrouve dans 3 minutes, juste après le flash d'info, avec vous Jean-Paul Demoule. À tout de suite.
Mardi politique. Autour de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question « Où sont passés les Indo-Européens ?» titre en forme de point d'interrogation du nouvel essai iconoclaste de l'archéologue Jean-Paul Demoule, notre invité. Nous déconstruisons ce mythe originel des Européens qui a la vie dure, comme nous le rappelle l'historien Nicolas Bancel, auteur de « L'invention de la race ».
Les Indo-Européens, en fait, c'est une double construction mythologique et scientifique en même temps. La première construction, c'est celle de la linguistique comparée. Et puis, la deuxième racine, finalement, c'est la racine raciale et toute la mythologie qui va s'élaborer au cours du 19e siècle. La raciologie politique et scientifique va croiser l'histoire de la linguistique pour confirmer donc une origine racialement pure d'un peuple mythique qui serait venu de cette région d'Asie et qui aurait finalement se serait stabilisé en Europe dans une espèce de zone de parfaite harmonie et où il aurait donc produit les races blanches supérieures européennes.
Voilà donc ce qu'a produit ce mythe, la construction d'une race blanche supérieure européenne. Ça rappelle quelque chose, parce que s'il en a découlé de sinistre mémoire, c'est l'idéologie aryenne du nazisme, Jean-Paul Demoule.
Oui, c'est là ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire si on va jusqu'au bout dans le mythe, on arrive là. Ça ne veut pas dire que c'est le seul endroit où on peut aboutir, mais c'est une sorte de loupe.
Alors justement, où est-ce qu'on pourrait aboutir? Parce qu'au départ, autour de la question où sont passés les Indo-Européens, cette question, elle s'est posée aux linguistes qui ont d'abord remarqué une vérité scientifique, la proximité de toutes ces langues indo-européennes. Alors, il y a les langues romanes, les langues slaves, les langues germaniques, les langues, le sanskrit, les langues celtiques, jusqu'à l'albanais et au grec. Ça, c'est une réalité, une vérité.
Oui, bien sûr, c'est parti de là. Et pendant tout le 19e, d'ailleurs, les linguistes rigoureux ont toujours dit Le problème indo-européen, c'est un problème purement linguistique. Moi, je ne fais que des langues et j'essaie de voir comment s'expriment ces ressemblances qui font que toutes ces langues indo-européennes se ressemblent beaucoup plus entre elles qu'elles ne ressemblent à d'autres groupes, d'autres familles de langues comme les langues sémitiques ou les langues sino-tibétiennes ou les langues finno-ougriennes du nord de l'Europe, etc. Donc, et encore dans les années 30, un plus grand linguiste français de l'époque, Antoine Meillet, dit l'indo-européen, c'est un système de correspondance entre les langues, entre les sons d'une langue. Mais souvent, il y a chez beaucoup d'indo-européanistes un double langage où ils vont dire c'est juste un problème linguistique, et puis à d'autres moments ils vont se lâcher en disant oui mais quand même puisque il y a dû y avoir une langue originelle.
Mais en fait c'est un peu logique aussi quand même de se demander s'il n'y a pas eu un socle commun, c'est-à-dire que pourquoi toutes ces langues dans des endroits géographiques aussi divers et variés dans toute l'Eurasie, pourquoi elles se ressemblent. On peut se demander s'il n'y a pas eu, vous l'avez cherché vous-même en tant qu'archéologue, s'il n'y a pas eu un socle commun finalement, une culture commune.
Bien sûr, c'est l'explication effectivement la plus simple, mais en même temps elle est extrêmement pauvre. Et quand on regarde à l'intérieur du modèle linguistique cette fois, on s'aperçoit par exemple que sur l'ensemble des langues indo-européennes, on estime qu'il y a entre 1500 et 2000 racines communes, mais en fait ces 1500 racines, on les trouve pas dans les 12 ou 14 familles de langues. En fait, les deux tiers se trouvent dans moins de 4 familles de langues. Donc il y a bien quelque chose, mais en fait c'est une espèce de nébuleuse, de réseau où trouver une explication unique avec un point unique de départ, c'est une explication, il faut vraiment forcer beaucoup les faits, c'est l'explication la plus pauvre, alors même que la linguistique, elle a continué à progresser depuis la grammaire comparée du 19e siècle, et on a des tas de modèles de formation de langue beaucoup plus complexe. Mais pour prendre un exemple que tout le monde connaît, c'est on prend l'anglais, les moitiés des mots anglais viennent du français à la suite de la conquête normande. Et puis on a des tas d'autres exemples.
Donc c'est toujours plus foisonnant, plus métissé, plus complexe en fait.
Oui, oui, bon, bien. Alors on sait dès la fin du 19e siècle, les linguistes qui étaient beaucoup plus réservés sur la question, comme un grand linguiste allemand, Hugo Schurartz, ont été les premiers à s'intéresser aux langues créoles, par exemple, pour montrer comment on pouvait former une nouvelle langue par
agrégat,
métissage, etc. Et il y en a des tas, d'exemples maintenant. C'est pour ça que l'Europe, c'est une sorte de cul-de-sac où les peuples se sont mélangés pendant des millénaires. Donc ils ont mélangé leur langue et leur mythe. Et donc effectivement, c'est beaucoup plus compliqué de penser, de réfléchir en termes de réseau qu'en termes d'un point origine avec un arbre généalogique. Mais c'est quand même par ailleurs beaucoup plus intéressant et sans doute beaucoup plus proche de la vérité.
Autour de la question où sont passés les indo-européens, je propose justement l'éclairage d'un linguiste, Pierre Encrevé, directeur d'études honoraires à l'EHESS. Sophie Joubert lui a demandé pourquoi justement il est impossible de prouver l'existence d'une seule langue indo-européenne originelle. Écoutez sa réponse.
La seule preuve possible pour une langue, c'est d'avoir des textes écrits. S'agissant des langues indo-européennes, on n'a jamais rencontré de langue écrite qui pourrait être à l'origine de toutes les autres. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'ensemble des langues indo-européennes, c'est 14 familles, enfin 12 familles principales, et donc c'est énormément de langues qui présentent un certain nombre de points communs, soit lexicaux, soit grammaticaux, morphologiques, mais très souvent assez peu de points communs qui réunissent toutes ces langues. Il y a une seule racine qui vaut pour l'ensemble des 14 familles de langues indo-européennes. Donc, ces langues ont des liens, elles ont des correspondances. On peut établir entre elles des lois logiques de correspondance et on peut essayer, à partir de ces lois logiques, de reconstruire des formes hypothétiques qui auraient pu être à l'origine de toutes ces variétés de formes qui ont quelque chose en commun. On peut faire cette hypothèse. Et on l'a fait. Et en effet, c'est le travail de la grammaire comparée, c'est, depuis deux siècles et demi, tenter de reconstruire des formes hypothétiques de ce qu'aurait pu être éventuellement un proto-indo-européen. Mais il ne s'agit pas du tout de poser une langue originelle, c'est simplement un calcul logique, mais il n'y a pas de possibilité de remonter à cette langue hypothétique aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé réellement des attestations de cette langue. Donc, aussi loin qu'on remonte dans le temps, on trouve des langues indo-européennes séparées et pas du tout de foyer d'où auraient pu se développer toutes les autres. Mais ce qui fait que les linguistes cherchent, c'est simplement qu'il y a quelque chose de fascinant, bien sûr, dans ces correspondances sur un très très grand nombre de langues et sur un très grand espace. Il est tout à fait fascinant, en effet, que le français ait des liens avec des langues du Pakistan, de l'Iran, de l'Arménie. Ce lien entre l'Europe et l'Asie, c'est une énigme totalement fascinante, passionnante, mais je ne pense pas que les linguistes, ceux qui sont simplement linguistes, ne cherchent pas la langue originelle.
Donc pas de langue indo-européenne originelle hein, pour les linguistes. Il est historien également, hein, Pierre Encrevé, Jean-Paul de Boulle, même si il le précise bien, le mystère du lien entre toutes ces langues reste entier. C'est une vraie énigme.
Oui, bien sûr, c'est une vraie énigme et je pense qu'elle sera c'est une énigme qu'on pourra sans doute résoudre un jour plus avec l'accumulation des connaissances, mais aussi avec sans doute des modèles de compréhension beaucoup plus complexes.
Pensant en réseau justement, oui, au lieu de chercher une origine, en pensant oui, en réseau, oui. en arborescence, un peu comme oui. pour les oui. origines de l'homme et toutes
oui,
ces questions-là.
C'est pas un scoop, et c'est pas moi qu'il ait inventé, ça a été posé dès la fin du 19e siècle et régulièrement il y a toute une lignée de linguistes certes minoritaires mais qu'ont proposé un grand linguiste russe Nikolai Trubetskoy par exemple dans les années 30 qui a fait l'hypothèse aussi de mode de formation beaucoup plus complexe. Donc quand on a affaire à un modèle qui si est trop simple, est trop réducteur et qui peut avoir des applications si catastrophiques, on se dit qu'il faut peut-être être un peu prudent et être vraiment sûr de son modèle.
Et puis peut-être remettre en question, alors évidemment qu'on cherche toujours nos origines, mais cette question des origines justement, parce que c'est là où on essaye évidemment de simplifier, c'est le fait qu'on se dise on veut trouver une origine commune, peut-être c'est pas ça qu'il faudrait chercher, peut-être qu'il faut poser la question autrement.
Oui, parce que c'est toujours l'idée de pourquoi sommes-nous là et quelle est la cause de ça et à quoi nous servons. Et c'est effectivement complexe de dire qu'il n'y a pas forcément une origine, un point origine, une cause, parce qu'après tout, on pourrait remonter indéfiniment dans le temps, parce que l'origine des langues indo-européennes, suivant les théories actuelles, c'est soit quelque part vers moins 4000 l'éclatement, soit vers moins 6000, moins 7000. Mais l'homme moderne, comme vous et moi, Homo sapiens, c'est entre moins 100 000 et moins 200 000. Donc on peut aussi remonter, évidemment, il y a des linguistes qui sont exercés à ces tentatives qui sont évidemment de plus en plus périlleuses, plus on remonte.
Vous, en tant qu'archéologue, quand vous cherchez quoi ? Répondre à une question ? Cette question justement des origines, c'est peut-être plus celle-là à laquelle il faut essayer de répondre ou vous essayez de... Est-ce que aussi les techniques archéologiques, est-ce que la recherche a changé justement aujourd'hui ?
Maintenant, dans la plupart des sciences, tout le monde est d'accord, que ce soit la médecine, le climat, etc. Il n'y a jamais une cause, donc une raison et un point origine. C'est toujours un ensemble de causes qui font qu'à un moment donné, il va se passer ou il ne va pas se passer quelque chose de nouveau. Il va y avoir un saut. Dans tous les phénomènes sur lesquels on s'interroge, moi, je suis plus particulièrement spécialisé sur le néolithique, c'est-à-dire de l'invention de l'agriculture et de l'élevage, mais il n'y a pas une origine, il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé un jour et qui a inventé l'agriculture et l'élevage. C'est toute une série de manifestations très complexes qui font que dans certains endroits du monde, mais pas dans tous, loin de là. On a inventé l'agriculture élevage et ensuite, effectivement, ça s'est diffusé peu à peu.
Et ce qui veut dire aussi aujourd'hui que vous cherchez des traces, finalement, pour essayer de comprendre, de remonter, d'éclairer ce foisonnement ou cette complexité. Vous essayez plus de trouver la réponse, l'origine, le lieu, c'est ça?
Non, on travaille plus en termes d'une cause, une origine, une raison. On essaie d'éclairer à un moment donné du temps, et l'histoire humaine, elle peut être éclairée que de manière matérielle, alors surtout par l'archéologie qui étudie les traces matérielles directes, mais il y en a d'autres. La génétique, c'est aussi matériel, mais c'est pas les archéologues qui en font. L'étude du climat, c'est également d'autres sciences, mais à partir de traces matérielles. Mais dans tous les cas, si on veut parler d'un peuple originel, ben il n'y a que l'archéologie qui pourra déterminer que quelque part, il y a eu effectivement un vrai peuple dont il faudra déterminer la langue, c'est un autre problème, mais qu'il y a eu ce phénomène d'éclatement quelque part en Europe ou pas.
Et pour le moment, ça n'est pas prouvé, ça.
Pour l'instant, non. On a tout essayé. À peu près tous les points de l'Europe ont été proposés et de l'Asie, puisqu'on est parti de l'Inde. On a même proposé le pôle Nord, même l'Égypte. Donc tout a à peu près été proposé. Mais rien ne tient actuellement d'un point de vue archéologique. C'est-à-dire c'est la trace d'une sorte de Big Bang où à partir d'un point donné, on verrait peu à peu les objets des objets se disperser comme
ça. Et selon vous, il y aurait quoi? Plusieurs routes, plusieurs arrivées, plus de métissage?
Oui, c'est bien sûr, c'est une histoire extrêmement complexe qui dure et qui est sur des millénaires avec des processus qui ont pu être très différents. Bien sûr qu'il y a eu des conquêtes de temps en temps puisqu'on a eu l'Empire romain, mais quand on dit les langues romanes, c'est le latin qui a conquis. Il faut pas oublier que derrière, c'est une administration étatique qui a imposé le latin pendant des siècles, et encore ça n'a pas marché partout, puisque il y a des tas d'endroits de l'ex-empire romain où le latin s'est pas du tout imposé, comme en Grèce, les îles britanniques, le nord de l'Afrique, etc. Alors des fois on va dire, oui mais regardez les conquistadors, une poignée d'hommes, ils ont mis à bas des empires, et là on oublie que là encore si on parle espagnol et portugais en Amérique du Sud, c'est parce qu'il y a eu 500 ans de domination étatique espagnole et portugaise, et que même encore là, les langues amérindiennes peuvent être très vivantes, comme au Paraguay, au Pérou, etc. Donc c'est les modèles historiques sur lesquels on s'appuie sont en fait inadéquats par rapport aux sociétés traditionnelles de la préhistoire.
Autour de la question, où sont passés les Indo-Européens? On continue de les chercher, puisqu'on risque pas de les trouver. On va se perdre en musique du côté de l'Inde, en version originale sanskrit, avec Sushila Raman sur RFI, Yemera Divana.
Ye mera divana fan hai ya mohabbat ka sur, ye mera divana fan hai ya mohabbat ka sur, tu na pehchane to hai ye teri nazron ka kasoor, ye mera
Sushila Raman sur RFI autour de la question où sont passés les Indo-Européens avec notre invité, l'archéologue Jean-Paul Demoule. Nous avons déconstruit ce mythe des origines pour les Européens, mais qu'en est-il du côté de l'Inde justement? J'ai posé la question au géographe du sous-continent Michael Brickert. Selon lui, à quoi sert ce mythe en Inde? Est-il présent là aussi?
Il sert en Inde, il a servi aussi en Europe avec le nazisme, avec l'emprunt de symboles évidemment. Alors en Inde, il sert moins dans l'autre sens. On ne va pas trop faire référence au fait qu'il y a une civilisation commune qui a essaimé d'un côté vers l'ouest et de l'autre côté vers l'est. On va un peu couper le côté européen et créer un mythe indien. C'est le mythe d'une Inde non violente, végétarienne, sage, qui aurait découvert avant tout le monde l'astrologie, qui aurait découvert avant tout le monde les atomes, etc. Et qui aurait été corrompue par l'arrivée des musulmans et par l'arrivée des Européens par la suite.
Et vous, vous dites que c'est un mythe?
Je dis que c'est un mythe, oui. Ça, c'est sûr. Alors, c'est pas un mythe indo-européen, c'est un mythe indien, en tout cas hindou, qui est instrumentalisé politiquement à des fins identitaires, tout simplement, hein. C'est-à-dire l'ennemi de l'intérieur qui est le musulman et contre l'ennemi de l'extérieur qui est l'Occident d'une certaine façon avec ses mœurs corrompues.
Construction inverse donc en Inde où ce mythe n'est plus qu'hindou quoi, plus du tout européen. Jean-Paul Demoule.
Oui, parce que à l'origine ce que les notamment les archéologues anglais colonisateurs avaient vendu à l'Inde, c'est que les Indo-Européens étaient donc partis quelque part en Europe, arrivent en Inde, dans le nord de l'Inde, sur leur char de guerre et détruisent la grande civilisation dite de l'Indus qui s'étend entre moins de 1700 et moins 1700 avant notre ère. Et que donc, c'est les Aryens, puisque dans les premiers textes anciens de l'Inde, les Védas, on parle du combat des Aryas, donc des Aryens qui sont les bons, contre des méchants qui sont les Daïsia.
Donc chacun se servait du mythe à sa manière. Enfin, les colons anglais l'ont inversé d'une certaine manière, et aujourd'hui, les Hindous l'ont récupéré.
Oui, au départ, les hautes castes l'ont accepté, et dans les livres traditionnels scolaires indiens, on voyait les chars de guerre arriver, et donc les brahmanes, les hautes castes, c'est-à-dire les prêtres, les brahmanes et les guerriers, les kshatriyas, se disaient descendants des envahisseurs, comme l'aristocratie française se disait descendante des francs, par exemple. Et ce modèle a été inversé récemment avec la montée du fondamentalisme hindou, et cette idée que finalement, la civilisation de l'Indus, c'était déjà des Indiens, des vrais Indiens, et s'il y a eu dispersion des Indo-Européens, c'est parti de l'Inde.
Mais là encore, ce mythe, enfin aujourd'hui ce mythe en Inde, il sert le nationalisme hindou en l'occurrence. On se rend compte que ces mythes originels, ils servent quand même toujours des nationalismes et contre d'autres. Là, en l'occurrence, les musulmans ou nous, pour nous détacher de ce mythe biblique et des ces mythes des Hébreux.
Oui, en Inde, c'est pas un phénomène marginal, puisque le parti nationaliste hindou, le BJP, il est au pouvoir alors, et il a plutôt tendance à exacerber justement les chocs intercommunautaires. Donc, effectivement, toute communauté humaine a besoin de
revendiquer des origines supérieures en fait
en général et en tout cas d'avoir une espèce de passé commun. Bon, Ernest Renan disait pour faire une nation il faut le passé et le présent parce que c'est un plébiscite de chaque jour on décide de vivre ensemble, mais il faut aussi avoir un présent. Alors la responsabilité des scientifiques c'est de pas laisser ces communautés humaines, ces nations s'enferrer dans des mythes, parce que...
Oui, c'est-à-dire que c'est un mythe, pourquoi pas si on en a besoin, mais c'est un mythe, c'est pas une réalité, c'est le rôle un peu des archéologues aussi.
Oui, on est là pour ça, c'est-à-dire de dire, ne croyez pas que etc. De même qu'on a pu montrer que les Gaulois n'étaient pas des sauvages qui avaient été civilisés par les Romains ou que les hommes préhistoriques n'étaient pas des brutes, et bien de même on va dire oui, il y a une longue histoire de l'Europe. Il y a des tas de points communs culturellement dans l'ensemble de l'Europe et d'une partie de l'Asie, mais cette idée du petit peuple conquérant parti de quelque part, pour l'instant, ne repose sur rien. Donc,
c'est important, c'est d'autant plus important aujourd'hui. On a un peu l'impression que partout sur Terre, on va peut-être aller chercher des mythes qui nous promettent que c'est nous les meilleurs et puis que c'est nous qui avons été les premiers, les plus forts toujours.
Oui, bien sûr, pour le justifier sur le passé, mais c'est la seule chose qui compte. compte, c'est est-ce qu'un groupe humain a envie de vivre, est-ce que tout le monde a envie de vivre ensemble ou pas? C'est la seule question pertinente et intéressante. C'est pas l'idée que il y a 4000 ans ou 5000 ans.
C'est bien de le rappeler, moi je pense, hein, que ce qui compte c'est aujourd'hui. Oui, est-ce qu'on veut, est-ce qu'on peut vivre ensemble aujourd'hui, peu importe qui on a été dans le passé. Et on sait pas très bien qui on a été, même si les archéologues nous y aident. Alors les archéologues aujourd'hui, en plus, ils manifestent à Paris. Vous avez été Jean-Paul Demoule, le premier président de l'Institut national d'archéologie préventive, hein, l'INRAP, et aujourd'hui, ils se mobilisent. Aujourd'hui, 2 décembre à Paris. Pourquoi?
Oui, parce que justement, la France a eu longtemps un très grand retard pour sauver les sites archéologiques, parce que l'archéologie du territoire français, c'était les Gaulois, des vaincus, des barbares, et donc il n'y avait pas une grande exaltation du passé. Là. C'est l'image inversée là, qu'on a.
Oui, on se revendiquait comme descendants des Gaulois qui avaient été des vaincus.
Oui, donc on s'intéressait pas au patrimoine. Et si vous allez au musée du Louvre, il y a que des objets grecs, romains, orientaux, donc des choses belles. Noble. Donc c'est seulement dans les années 80-90 qu'il a fallu attendre 2001 pour faire une loi sur l'archéologie préventive et 2002 pour fonder un grand institut chargé de ça. Mais cette espèce de comme ça de haine refoulée de passé peuple vaincu a fait que depuis que la loi existe et que l'institut existe, il est sans arrêt remis en cause. La loi n'est pas vraiment appliquée. On a favorisé l'éclosion d'entreprises commerciales d'archéologie censées faire baisser le prix des fouilles. Et donc l'archéologie préventive est dans un état extrêmement préoccupant.
Alors que les archéologues de l'INRAP font des découvertes tous les jours sur des sites archéologiques où on exhume notre passé, ni de vainqueur ni de vaincu, mais notre passé.
Ben oui, notre passé tout court, de la connaissance tout court, mais ça continue à susciter l'hostilité des parlementaires et quels que soient les gouvernements, et il faut régulièrement tous les ans, c'est des fois lassant, mais on ne lâche pas.
Et vous ne lâchez pas parce qu'en même temps vous pouvez profiter parfois de travaux qui sont faits pour effectuer des fouilles. Enfin, il y a en plus des combinaisons à trouver.
C'est l'archéologie préventive, c'est effectivement le fait que maintenant systématiquement, avant des grands travaux d'aménagement, on fait des fouilles et on découvre des tas de choses, et c'est ça qui a révolutionné la vision de l'histoire de France. Mais il y a sans arrêt cette espèce d'hostilité sourde et il faut à chaque fois se fâcher pour... Et donc c'est pour ça que mes collègues sont dans la rue aujourd'hui.
Espérons qu'ils seront entendus. Merci en tout cas Jean-Paul Demoule d'être venu en direct pour nous faire partager toutes ces réflexions, toutes ces déconstructions et reconstructions du passé. Je rappelle le titre de votre dernier essai, Mais où sont passés les Indo-Européens, qui vient de paraître au Seuil dans la collection La Librairie du 21e siècle. Merci Jean-Paul Demoule.
Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Demain, on continue sur le fil autour de la question pourquoi des espaces protégés, pourquoi sont-ils au cœur de tant d'enjeux environnementaux, sociétaux et politiques dans le monde entier. Nous chercherons ce que ces tensions révèlent du rapport de nos sociétés à l'environnement cette fois-ci. Avec Charles Pélabon à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, amis auditeurs, portez-vous bien, restez curieux, continuez de vous et de nous interroger. Merci de votre fidélité, merci de votre interactivité. Dans quelques instants, dans une petite minute, un nouveau journal sur RFI.